c'est plutôt une bonne idée.
Après, ça dépend. Enfin,
ça dépend au niveau humain où est-ce qu'il veut mettre les personnes.
C'est génial.
Les élections municipales approchent et Radio Campus Angers va vivre au rythme de la campagne.
Je vous relance la question.
Du 24 au 28 février et du 10 au 14 mars, chaque candidat à la mairie sera l'invité du sous-marin de 19h à 20h.
C'est bien beau de dire qu'on embauche les jeunes.
Valentin et Pierre-Antoine sont allés demander aux étudiants ce qu'ils pensaient de cette proposition.
Ça va être difficile à appliquer.
Épluchage de programme, micro-trottoir, réponse aux questions des auditeurs. Nous passons en mode électoral.
Bonsoir, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu consacrée aux élections municipales. Notre sous-marin n'est pas jaune, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Si le cœur vous en dit, enfilez donc un scaphandrier. Je suis Tiffaine et à mes côtés en ce vendredi, Thomas, bonsoir.
Bonsoir Tiffaine.
Et Pierre-Antoine, bonsoir.
Bonsoir.
Comme chaque jour en fin d'émission, vous retrouverez l'agenda et la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Mais avant de se confronter à l'actualité électorale, voilà le billet d'humeur vendredesque de Thomas.
Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers auditrices. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet d'importance capitale, mais qui vous aura peut-être échappé, noyé dans le flux d'actualité incessant. Pas facile en effet de passer entre les magouilles de Jean-François Copé, la révolution en Ukraine, la répression politique en Russie et la promenade des soldats français au beau milieu d'une épuration ethnique. C'est pourquoi j'ai souhaité attirer votre attention sur ce drame, sur ce génocide qui ne dit pas son nom, silencieux et progressif, dont les conséquences ne seront pas mesurées avant plusieurs générations. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que n'auraient pas renié Michel Simès et Marina Carrère-Dancause dans leur émission médicale, ou même que Clara, notre chroniqueuse sexo, aurait eu plaisir à évoquer de manière anecdotique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lente agonie des spermatozoïdes français. Et oui, une nouvelle étude de l'Institut de veille sanitaire, réalisée par le docteur Joël Lemoyle, vient de confirmer la baisse de la concentration de sperme en France. Mesurée à 73,6 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme en 1989, cette concentration a subi une baisse continue de 1,9% par an. Je sais que dit comme ça, ça n'impressionne pas beaucoup. Sauf que cela signifie qu'en 16 ans, la concentration de sperme chez les hommes de 35 ans a baissé de 30%. C'est-à-dire qu'on est passé de 73,6 millions de spermatozoïdes à peine 50 en 2005. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Alors, je sais que les plus pragmatiques d'entre vous se diront qu'ils auront leur enfant avant 35 ans. Les plus libertins penseront sans doute que cela limitera le risque qu'on leur fasse un enfant dans le dos. Ce qui est pas forcément faux. Mais les plus angoissés ou les plus célibataires d'entre vous vont prendre d'assaut les guichets des banques de sperme pour faire un placement que je qualifierais de bon père de famille. L'intérêt de cette nouvelle étude, c'est qu'elle s'intéresse aux différences régionales. Bien que la baisse de la concentration des spermatozoïdes soit un phénomène national, il existe des variations entre les régions. Et les conclusions de l'enquête sont surprenantes en fait. On pourrait croire que les régions les plus touchées par le déclin de la qualité de sperme sont les régions surconsommatrices de tabac ou d'alcool. Ou bien alors les régions fortement touchées par l'obésité. Eh bien, que nenni ! Les régions les plus touchées sont les régions agricoles, avec en premier lieu l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées. Première région française en termes de nombre d'exploitations et de surfaces cultivées. Ah, le bon air de la campagne. Je sais pas pour vous, mais tout d'un coup, je le trouve vachement moins vivifiant. On savait déjà que l'utilisation massive de pesticides éradiquait les abeilles. On sait maintenant que les pesticides tuent aussi les spermatozoïdes. Cette semaine, c'est le salon de l'agriculture. Et la nouvelle tendance est en fait au felfi, pardon. Comprenez la contraction entre le F de farmer et le mot selfie. Il s'agit de se prendre en photo avec son smartphone devant des vaches, des moutons et tous les animaux de la ferme. C'est vraiment incroyable. Espérons que cette tendance ne fera pas oublier à notre ministre de l'Agriculture que la transition de l'agriculture française, la plus utilisatrice de pesticides en Europe, doit évoluer vers un modèle plus responsable afin d'éviter qu'en plus de la prolifération des algues vertes et la contamination de nos rivières, notre complexe industriel agroalimentaire fleuron de l'économie nationale qui participe à notre rayonnement mondial, qui rapporte chaque année 15 milliards d'euros à notre commerce extérieur, bon ça c'était pour la FNSEA, hein, ne nous condamne en plus à la stérilité. Je finis quand même sur une touche positive. Pour rappel, la concentration moyenne est donc de 50 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme et la norme fertile fixée par l'OMS est à 15 millions. Nous avons donc encore une petite trentaine d'années devant nous avant de nous inquiéter. Et j'espère que ça devrait être un sujet un peu plus sensible que le réchauffement climatique. Bon, dernière chose, je me demande vraiment pourquoi tous les intégristes de la valeur famille n'en font pas leur grande cause nationale. Au moins, ça nous changerait.
Merci Thomas. Et en plus on est sauvés, hein. Il nous reste une petite marge avant d'être complètement stérile.
Exactement.
Pendant toute cette semaine, nous avons reçu 4 candidats à l'élection municipale et nous poursuivrons ce marathon du 10 au 14 mars prochain avec 5 autres candidats. Toutes les interviews sont enregistrées dans les conditions du direct, c'est-à-dire sans montage, car il est tout bonnement impossible de recevoir tous les candidats en direct, live, dans nos studios. Notre quatrième candidat invité est celui qui clôture cette première semaine, est Jean-Luc Rotureau. Nous l'avons interviewé cet après-midi avec Valentin et Pierre-Antoine. Il a été adjoint au sport et à la jeunesse entre 1995 et 2007, puis adjoint chargé de l'urbanisme. Il s'est retrouvé en face de Frédéric Béatz pour succéder à Jean-Claude Antonini, qui a préféré le premier. Il a démissionné du PS en 2013 après avoir en vain réclamé des primaires ouvertes. En 2014, il présente sa liste « L'énergie de fer », une liste soutenue par le Rassemblement citoyen, Cap 21, Génération écologie et le Parti radical de gauche. Bonjour Jean-Luc Rotureau.
Bonjour.
Vous vous présentez pour devenir maire. Est-ce que vous pensiez que cela arriverait plus tôt, en janvier 2012 par exemple ?
Non, écoutez, il était prévu que Jean-Claude Antonini finisse son mandat jusqu'à 2014. Je pensais sans doute un petit peu naïvement que dans des procédures internes et puis organisées assez longtemps à l'avance par des discussions collectives, nous aurions pu choisir un candidat de la gauche au sens large pour 2014.
D'accord. Vous aviez dit à l'époque que vous n'aviez pas apprécié cette méthode. Vous avez un an plus tard démissionné du PS. Est-ce que cette liste, finalement, c'est pas un pied de nez, une vengeance par rapport à ce qui s'est passé et puis plus particulièrement par rapport à Frédéric Béatz ?
Non. Alors, première chose, que ce soit par rapport à Frédéric Béatz ou d'autres personnes, il n'y a absolument aucune animosité personnelle. On est bien sur des principes et notamment tout ce qui concerne la démocratie. J'avais souhaité, dès 2009, dans des discussions internes ou par des courriers au Parti Socialiste ou dans l'équipe municipale, qu'on ait des temps collectifs d'échange. Et ce sont tous ces temps que j'ai souhaités, qui n'ont pas été accordés, qui finalement ont dérivé vers ce que l'on sait un changement de maire précipité en moins d'une journée. Toute cette réflexion m'a amené à penser qu'on avait des conceptions différentes de la démocratie.
Et en vous présentant en 2014, vous n'avez pas peur d'affaiblir la gauche ?
Je crois que la question n'est pas là. La question est vis-à-vis des Angevins. Les Angevins ont droit à des choses transparentes, à de la clarté. Et beaucoup de dizaines, voire de centaines, m'ont témoigné leur souhait d'exprimer justement cette volonté de clarté et d'une conception de la gauche qui est peut-être différente d'autres conceptions.
Jean-Luc Rotureau, on va à présent évoquer vos propositions en ciblant celles qui concernent les jeunes puisque nous sommes sur Radio Campus Angers. Alors forcément, justement, en tant que Radio Campus Angers, ce qui nous a tout de suite sauté aux yeux avec Valentin et Pierre-Antoine, c'est que vous n'ayez qu'un colistier âgé de moins de 30 ans et qui soit à la 52e position. Clairement, est-ce que les jeunes, c'est vraiment votre cible d'électeurs ?
Alors... D'une part, c'est vrai qu'on pourrait avoir plus de jeunes, mais d'autre part, ce n'est pas forcément la représentation sur une liste qui fait qu'on s'intéresse aux jeunes ou pas. Vous avez rappelé justement que j'étais adjoint à la jeunesse. Je voudrais dire que l'essentiel du projet jeunesse d'aujourd'hui, c'est Jean-Luc Rotureau qui l'a bâti en 97, y compris d'ailleurs par rapport à des radios où on souhaitait cette expression libre de la jeunesse. Je rappelle qu'en 97, le projet jeunesse qui avait été adopté par la municipalité de l'époque prévoyait un certain nombre de projets très concrets, l'aide aux projets des jeunes, un festival qui s'appelait Tour de Seine, différentes aides visant l'autonomie de la jeunesse, et donc c'est bien ensemble que nous l'avions bâti. Maintenant, aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre une présence de X jeunes sur une liste et ce qu'on peut faire pour la jeunesse. Ce qui est important, c'est le rapport de confiance qu'on institue avec la jeunesse. Et évidemment, cette question-là nous intéresse, non seulement par la présence du monde étudiant dans la ville d'Angers, mais par une jeunesse aussi qui est très diverse dans les quartiers de notre ville.
Valentin ?
Alors Jean-Luc Rotureau, dans votre chapitre emploi, la seule ligne consacrée aux jeunes est l'organisation de rencontres dans l'esprit speed dating pour mettre en lien les étudiants et demandeurs d'emploi avec les entreprises. Alors comment comptez-vous mettre en place ces rencontres ? Est-ce que ce n'est pas un peu faible pour aider les jeunes étudiants à rentrer dans le monde du travail ?
Non, ce n'est pas la seule proposition, mais je crois qu'il y a plus une affaire de méthode que de contenu. L'affaire de la méthode, c'est instituer en permanence des liens avec les jeunes. Il y a un conseil municipal de jeunes qu'il faut maintenir, il faut peut-être le dépoussiérer, voir de quelle manière il faut le faire vivre. Ce qui nous semble important, c'est qu'il y ait des contacts permanents avec le monde de l'entreprise. On a aussi dans notre projet jeunesse, par exemple, à faire des parrainages. Les parrainages, c'est très important. On propose que 200 jeunes par an soient parrainés par des seniors. Une fois encore, donc, ce n'est pas une affaire de quantité. Vous l'avez dit, pour le nombre de jeunes sur la liste, c'est une réalité. On a moins de jeunes que d'autres sur la liste. Mais de la même façon pour le projet, ce n'est pas une quantité de propositions que l'on fait sur le projet qui compte. C'est la manière dont on va rentrer en relation avec ces jeunes. Et nous pensons que nous devons être en coproduction avec cette jeunesse. C'est ce que j'avais fait quand j'étais adjoint à la jeunesse. Et on peut très bien, avec la jeunesse dans sa diversité, construire sur les 6 ans du mandat différentes propositions. Surtout, faut être concret. Moi, je me méfie beaucoup des propositions style ce que j'appelle catalogue La Redoute, où on ajoute des propositions les unes aux autres sans qu'elles aient de contenu.
Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez comme pour mettre les jeunes dans l'emploi ?
Ben, les jeunes dans l'emploi, je vais vous dire, la collectivité peut avoir un effet de levier pour l'emploi, mais ce n'est pas la collectivité qui crée des emplois. Bien sûr, il y a des emplois directs, comme d'autres, évidemment. On va essayer de faciliter l'emploi dans les collectivités qui nous concernent, la ville d'Angers et l'agglomération. Il y a des emplois d'avenir, mais ça ne me semble pas toujours des emplois d'avenir. C'est parfois des emplois d'attente plus que des emplois d'avenir. Il y a le contrat de génération, on connaît tout ça. C'est aussi voir de quelle manière, dans les recrutements directs de la ville, on peut faciliter les passerelles dans les différents jurys qu'on organise. Mais c'est surtout, au-delà des emplois municipaux ou des emplois de fonctionnaires, voir comment on peut instituer une relation de confiance avec le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, cette relation de confiance n'existe pas toujours. J'ai rencontré pendant cette campagne le monde patronal, la fédération des petites et moyennes entreprises, le centre des jeunes dirigeants. Je crois qu'il y a besoin d'activer tous ces contacts permanents pour voir de fait avec ces responsables économiques. Ce n'est pas les élus de la ville qui sont les responsables économiques, mais bien voir avec les responsables économiques comment on peut faciliter un lien permanent avec le monde de l'université, le monde de l'école aussi au sens large, à la sortie du lycée, et faire en sorte que ces liens s'établissent de manière plus forte.
Jean-Luc Rotureau, pour venir en aide au logement pour les jeunes, vous proposez entre autres la mise en place d'une caution citoyenne par la mairie. La mairie se porte donc caution en échange d'un investissement en tant que personnel dans une action citoyenne. Pierre-Antoine et Valentin sont allés demander aux étudiants ce qu'ils en pensaient.
Je trouve que c'est bien, ça permet de responsabiliser un peu plus les étudiants. Donc tant qu'à avoir ça de façon assez sympathique de la part de la mairie et faire une action qui coûte rien juste pour aider la société, c'est une bonne chose.
Bah, je pense que c'est une bonne idée parce que la mairie c'est un peu un financement sûr et ça permettrait aux gens de faire une action dans une association ou avoir une vie associative, leur permettre d'acquérir une conscience citoyenne.
Je pars du principe qu'une action pour la mairie devrait être faite sur le principe du bénévolat, alors que là, ça serait pour, pour d'autres intérêts, ça serait peut-être pas sincère.
Alors Jean-Luc Rotureau, vous qui aimez être concret, jusqu'à quel montant la mairie peut-elle se porter caution concrètement ?
Je pense que ça peut être une caution qui est en gros du montant ce que demandent les bailleurs privés. Il y a d'une part les bailleurs sociaux, les HLM, et puis d'autre part, il y a les privés. Donc les cautions, elles sont variables, elles peuvent être souvent de 2 ou 3 mois, c'est souvent ce qui est demandé, enfin je sais pas, vous me direz si ça correspond.
C'est 2 mois, il me semble.
2 mois de loyer, et bien je crois que la caution, elle doit être l'équivalent. Alors 2 mois de loyer, selon le logement qu'on occupe, en colocation ou pas, ça peut être des loyers qui peuvent être de 300 à 500 euros, des fois en gros. Donc moi je dis une caution, elle peut être peut-être jusqu'à 1 000 euros. En gros, Et de fait, nous, nous pensons qu'il faut lier cette caution à un engagement citoyen à définir, pourquoi pas avec des associations de jeunes ou d'adultes, mais quelque chose qui corresponde à une notion d'intérêt général pour la ville.
C'est encore très flou.
Ben, c'est flou, mais ça peut être très concret. Ça peut être très concret. Par exemple, on a dans l'équipe des gens qui s'occupent du nettoyage des berges de Maine avec des associations. Eh bien, pourquoi un jeune qui bénéficierait d'une caution de la ville ne pourrait pas participer, je ne sais pas, au moins genre 3 ou 4 week-ends dans l'année au nettoyage des berges de Maine. Voilà. Un exemple, mais je peux vous en citer d'autres.
Allez-y.
Eh bien, je vais vous en citer d'autres. Ça peut être dans des associations culturelles ou sportives où on a besoin de temps en temps d'un coup de main de manière ponctuelle dans l'année. Là aussi, sur une durée à déterminer. Moi, je ne mets pas l'équivalent monétaire. Je mets l'intérêt à la fois pour la ville ou pour une association de bénéficier d'un temps d'apport de bénévolat de la part d'un jeune, et puis en même temps pour le jeune ou la personne en question, la découverte aussi d'une activité qui intéresse la ville au sens général.
Jean-Luc Roturon, on sort du chapitre logement pour aller vers le chapitre sécurité. Vous souhaitez mettre en place de la surveillance vidéo d'une manière très ciblée dans les endroits qu'il justifie et en lien avec les habitants.
Je trouve que la ville est déjà assez sécurisée comme ça. Il n'y a pas beaucoup de délits. J'ai jamais vu. Il se passe quasiment rien en G. Je trouve que c'est déjà assez sécurisé comme ça. Et là c'est un manque de liberté.
Ça met une sécurité et plus il y a de sécurité et mieux on est rassuré quand on rentre le soir et qu'on est seul, parce qu'il y a des quartiers qui craignent un peu et voilà.
Il y a la police pour ça, il y a des gens pour ça, et si c'est pour fliquer les gens partout, dans ce cas on n'a plus de liberté.
Alors Jean-Luc Roturo, quels seraient les lieux dédiés à la mise en place de cette vidéosurveillance?
Nous avons bien dit dans le projet des lieux ciblés. Il s'agit pas de généraliser parce que ça me semblerait une bêtise absolue, puis je trouve que vos témoignages sont intéressants dans ce sens-là. Je vais vous prendre un exemple. J'ai été, moi, président de foyer de jeunes travailleurs qui gère trois foyers sur la ville, 2 à Montplaisir, 1 à La Roseraie. En ce moment, les salariés d'un des foyers sur Jean Villard à La Roseraie se sont mis en grève, en droit d'alerte, parce que il se trouve que la centaine de jeunes qui sont hébergés dans ce foyer à Jean Villard, quand ils rentrent le soir ou la nuit, ne se sentent pas en sécurité parce qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'individus qui mettent un petit peu le bazar. Je ne dis pas des jeunes volontairement parce qu'on dit toujours les jeunes, mais il y a des individus qui mettent le bazar. Et les jeunes qui sont hébergés, eux, ne se sentent pas du tout tranquilles quand ils rentrent dans leur logement. Eh bien, je trouve que dans ce lieu, on aurait une vidéoprotection, ce que j'appelle ciblée, donc ponctuellement et sur ce lieu, ben ça permettrait aussi d'inverser la crainte, c'est-à-dire que ce ne soient pas les jeunes qui sont hébergés qui soient dans la peur, mais que ce soient les personnes qui sèment un petit peu le bazar à l'entrée de ce foyer.
Et vous ne pensez pas que la vidéosurveillance est une atteinte à la vie privée des personnes ?
En l'occurrence, non. En l'occurrence, non, parce que je n'ai pas une notion de la sécurité comme des partis extrémistes peuvent l'avoir. Je l'ai vraiment en termes de protection pour, on va dire, la majorité des gens qui ont droit à une tranquillité, qui ont le droit de sortir le soir à toute heure, qui ont le droit de mener leur vie. Et je considère qu'au contraire, là, c'est quelque chose qui est important pour une majorité de la population.
Jean-Luc Roturo, je vous propose de marquer une pause musicale avec un groupe angevin dont je vais taire le nom volontairement pour vous laisser deviner de qui il s'agit.
Thank you.
Jean-Luc Rotureau, avez-vous deviné de qui il s'agissait ?
Je me sens un petit peu perdu, mes enfants sont plus âgés que vous. Je n'écoute plus trop la musique des groupes actuels, mais si je dis les Pony Run Run, je suis à côté de la plaque.
Oh, un petit peu, oui, c'est Vedette, ouais. Avec Nothing Else. Est-ce que vous vous intéressez à la scène musicale angevine, même si vos enfants sont un peu plus vieux que nous ?
Je m'y intéresse de loin, très franchement.
Alors, parmi les propositions que vous faites, on va se recentrer sur la culture. Vous proposez la création d'un festival multidisciplinaire de danse. Ça, c'est un secteur qui vous intéresse plus que la musique ?
Non, 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 ce n'est pas une affaire d'intérêt personnel, c'est une affaire du projet où on a travaillé collectivement avec les collègues depuis plusieurs mois. Et chacun, c'est vrai, s'y connaît plus dans un secteur que dans un autre. Et donc, toutes les personnes qui travaillent avec nous sur la culture nous ont dit il faut qu'on trouve quelque chose où on a à la fois beaucoup de compétences locales. Et donc, autour de la danse, du mouvement, c'était évidemment notamment le CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine, et une activité qui pourrait aussi fédérer tous les Angevins. Et si on a pris autour de la danse, et la danse contemporaine peut apparaître peut-être une affaire de spécialistes, mais autour du mouvement et de la danse, on sait bien qu'il y a beaucoup d'intérêt sur Angers. C'est aussi bien les personnes âgées qui font de la danse, aussi bien les personnes âgées qui font de la danse pop de quartier, que la danse tout le monde s'intéresse un petit peu à la danse. Tout le monde s'intéresse, mais nous pensons que ça peut nous mobiliser la danse, et nous pensons que ça peut aussi nous philosopher l'ensemble de nos projets, si ça vient que nous voulons l'ensemble de nos projets, fédérer les énergies en juin et permettre à tous les énergies de s'intéresser et s'intéresser à trouver en juin. On l'a bien vu d'ailleurs, parce que quand on a fait cette proposition, quand on a fait cette proposition, à Pif, le danger ne tourne pas encore, on a bien vu que la façon dont on a le clip intéressait les Angevins autour de la danse et de la musique notamment.
Dans vos propositions culturelles, vous entendez valoriser la culture populaire. Qu'est-ce que c'est la culture populaire, Jean-Luc Rotureau ?
Ben, la culture populaire, vous savez, c'est peut-être ce que j'ai vécu moi quand j'étais enfant. J'habitais dans un quartier de la ville, peu importe, mais nous n'étions pas, de par notre milieu familial, forcément sensibilisés à la question culturelle. On allait un peu voir le foot ou des choses très modestes, ce qui est bien d'ailleurs, mais bon. Donc je crois que la culture populaire, c'est permettre à chacun et à chacune, quel que soit son statut social et son âge, de s'intéresser dans la vie locale, dans son quartier, aux différentes formes d'expression, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres, parce que la culture, c'est pas simplement la question des arts, c'est une question beaucoup plus large, la question des mœurs, la question des liens sociaux, et la culture populaire, c'est pouvoir s'investir avec d'autres autour d'activités communes.
Et qu'est-ce que vous proposez pour la culture underground, ce qu'on appelle la culture underground, par exemple les cafés-concerts ou ce genre de choses, ce genre de structures ?
Je crois beaucoup dans tout cela. Avec, on n'a pas de proposition concrète là-dessus, mais je crois que là aussi, c'est la question des liens à fédérer et à pousser dans les différents quartiers de la ville qui s'affrontent parfois. Pour avoir quelques copains artistes et quelques copains dans les cafés, qui s'affrontent parfois à des questions réglementaires. Les questions réglementaires peuvent être autour des déclarations SACEM ou autres, peuvent être autour aussi des horaires d'ouverture ou de fermeture des bars. Mais je crois qu'il faut refaire vivre, parce que ça existait, cette culture locale qui permet une expression, que ce soit dans les cafés, que ce soit dans des petites salles ou autres, qui permet donc une expression beaucoup plus, j'allais dire familière, et qui s'adresse à tous, oui.
Pourtant, vous proposez une campagne de prévention contre les nuisances sonores et vous parlez de contraintes.
Mais c'est pas, faut pas opposer les choses comme ça. Tel que vous posez la question.
Je vous laisse répondre.
Tel que vous posez la question, c'est comme si on voulait empêcher une expression qui serait une expression qui évidemment est plus jeune et que de l'autre côté il y aurait des gens de bonne famille ou des bourgeois qui auraient pas envie d'être dérangés. Bon, la question elle est pas celle-là. La question elle est de dire jusqu'où on peut permettre que dans la ville une jeunesse s'exprime, une jeunesse étudiante très forte en Angers, hein, 35 000 étudiants. Mais une fois encore, ne résumons pas la jeunesse à la vie étudiante, c'est beaucoup plus large que ça. Une jeunesse très diverse, très diversifiée, permet à la jeunesse de s'exprimer le maximum possible, mais en même temps éviter les débordements. Et ça, personne ne peut être contre. On sait bien que dans la ville, pour X raisons, il y a ou il y a eu des débordements, alors soit de manière ponctuelle à des rentrées étudiantes ou sur certaines rues. Et il y a beaucoup d'Angevins aussi qui aspirent dans ces rues ou dans ces moments-là à ne pas trouver le lendemain devant chez eux 1000 choses dégradées ou avoir du bruit jusqu'à 5 heures du matin. Donc on peut très bien lier les deux. C'est ça notre projet. C'est de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté la jeunesse et de l'autre côté des Angevins qui diraient, c'est encore les jeunes qui mettent le bazar. Je pense que la responsabilité des élus, elle est celle-là, elle est de dire on peut concilier des intérêts différents et c'est tout à fait faisable par un certain nombre de mesures et de rencontres qu'on doit pouvoir mettre en œuvre.
On continue avec une autre proposition de votre programme, la mise en place d'un chapiteau itinérant dans les quartiers pour apporter les arts au pied des habitations.
Peut-être pas forcément itinérant au pied de toutes les habitations, parce que je pense pas que ça va plaire à tout le monde. Ça dépend quel type d'art, genre si c'est fanfare, au pied de ton immeuble, c'est pas génial.
C'est une super bonne idée et je pense que ça apporte de la vie et ça permet de faire plein de choses. Et j'imagine que du coup, après, il y a plein de gens qui peuvent proposer leurs trucs.
Eh ben, je trouve ça super, c'est un beau travail de médiation culturelle auprès de la population.
Après, c'est les moyens qui vont être mis en place pour le développer, faut voir ce qu'ils proposent.
Alors, qu'est-ce que vous proposez, Jean-Luc Rotureau ?
Ben, vous voyez, ça tombe bien, hier, j'étais à rencontrer les responsables du Théâtre en Bois. Le Théâtre en Bois, c'est sur les quartiers des Hauts-de-Saint-Aubin. Et du temps où j'étais adjoint à l'urbanisme, où cette proposition avait été faite, j'avais exprimé mon point de vue qui était tout à fait favorable. Donc là, on n'est pas sur un chapiteau, mais un théâtre un petit peu peut-être plus lourd à changer de quartier, mais qui prouve aujourd'hui tout son intérêt dans un quartier neuf, qui travaille. Alors le Théâtre en Bois, c'est une structure qui permet à différentes troupes théâtrales, chanteurs ou autres, différents arts de s'exprimer et qui font sur le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin un travail remarquable. J'aime bien le mot de médiation culturelle avec des écoles, des enfants du quartier ou des jeunes ou des moins jeunes. Et l'idée du chapiteau est un petit peu celle-là. C'est-à-dire qu'on puisse avoir dans la ville une structure plus légère, qui ne soit pas forcément en dur toute l'année, mais qui s'intègre dans des programmes d'animation des quartiers et qui redonne du lien et du lien dans les quartiers. Je crois beaucoup à la culture comme système de médiation entre les personnes, d'une part pour de la découverte, on a toujours besoin de découvrir, mais aussi pour permettre aux gens de se trouver bien, de s'épanouir, éventuellement de nouer de nouveaux contact avec des populations qu'ils ne connaissent pas. Et cette affaire de chapiteau, c'est cette idée, au-delà de la culture, c'est cette idée de lien dans la ville.
Pierre-Antoine ?
Alors sortons un peu de l'art, mais restons dans la culture. Quelle politique de soutien aux associations comptez-vous mettre en place à Angers ? Est-ce que ce serait la même que celle de l'actuelle municipalité, c'est-à-dire le deuxième poste de dépenses, et c'est-à-dire 8,5 millions d'investissements en 2013 ? Est-ce que ce serait la même politique que vous souhaitez mettre
Alors,
en place ?
Vous savez que j'ai été adjoint pendant 18 ans et j'assume, 80% du bilan du mandat actuel. Et il me semble que la politique en direction des associations est une bonne politique. Je pense que déjà, il faut maintenir cette politique qui a prouvé son efficacité dans différents secteurs, dans le secteur social, dans le secteur culturel, dans le secteur sportif. Et donc, oui, je souhaite maintenir cette politique en direction des associations. Désormais, je crois que la question est différente. La question n'est pas sur une enveloppe financière ou une philosophie qu'on maintiendrait en direction des associations, mais plus sur des répartitions au sein de ces subventions. Est-ce que parmi l'ensemble des associations, il n'y a pas certaines aides qui devraient être priorisées et plus urgentes dans le contexte actuel que sur certains secteurs? Donc il faudrait refaire un diagnostic complet de la vie associative, mais bien sûr en maintenant des aides qui sont d'importance. France, hein, pour les associations, parce que la vie associative, c'est quand même 1500 associations sur la ville, et c'est quand même aussi un des poumons de la ville d'Angers.
Répartir sur quels critères ces subventions ?
Ben justement, je pense qu'il faut regarder de très près, parce que je vais caricaturer, mais entre l'association des moustachus, où il y a peut-être 40 adhérents...
Que nous ne connaissons pas,
et qui se retrouvent, je ne sais pas si elle existe toujours, et si elle se retrouve deux ou trois fois par an, et puis des associations qui ont beaucoup de vitalité, qui se retrouvent chaque semaine ou qui mènent une action caritative ou une action un petit peu urgente pour la population, c'est ça qu'il faut remettre à plat. C'est-à-dire, est-ce que toutes les associations aujourd'hui justifient des aides qui se sont pérennisées au gré des années ? Est-ce qu'il n'y a pas à dépoussiérer notre façon de ventiler les subventions ? Parce que souvent, vous savez, les aides, elles sont sur des aides au fonctionnement, c'est-à-dire elles sont votées chaque année, il y a aussi des aides sur les projets, mais les aides au fonctionnement sont souvent pérennisées dans le temps. Ben, ça vaut le coup aujourd'hui, en 2014, de s'intéresser à l'ensemble de ces aides. Est-ce que les aides qu'on accordait en 1990 et qui existent toujours aujourd'hui ont toujours lieu d'être ?
Vous venez de dire, Jean-Luc Rotureau, que vous assumiez 80% du bilan du mandat actuel. Parmi les grands chantiers, vous soutenez le projet Rive Nouvelle, vous suivez à peu près le tracé de la ligne B de Frédéric Béatz. C'est quoi la différence fondamentale entre vous et Frédéric Béatz en termes de propositions ?
Oui, la différence, je l'exprime sur deux ou trois points bien différents. Par exemple, sur les questions de citoyenneté et sur les questions de participation de la population, ce qui rejoint la question de la démocratie. Il y a eu des mises en place de conseils de quartier, de conseils de jeunes, conseils des étrangers. Je considère, par exemple, que dans les conseils de quartier, nous sommes arrivés aujourd'hui à des institutions où souvent on amène des projets de la ville que les gens discutent, c'est bien. Je souhaiterais qu'il y ait plus de participation de façon ascendante. Par exemple, qu'un projet de quartier soit beaucoup plus élaboré par la population que par l'administration municipale. Donc cette question de la participation et de la démocratie, elle est fondamentale pour moi. Deuxième différence significative, c'est sur la gestion des finances. Depuis 3 ans, nous avons engagé d'énormes dépenses dans la ville qui vont devoir se payer par les enjeux de demain. Je souhaitais que les investissements soient plus limités et qu'on rééquilibre entre les grands projets de ville qui certes sont importants, mais qu'on rééquilibre avec la vie quotidienne. La vie quotidienne, ça peut être aussi bien la propreté dans la rue que la question du logement, que la voirie. Bon. Et on a déplacé le curseur très fort vers les grands investissements, ce qui est une bonne chose pour l'économie, mais on l'a déplacé de manière trop forte parce que demain, ça va se payer en impôts ou en emprunts, et d'une manière ou d'une autre, ça reviendra au même.
On va clôturer cette interview avec un petit quiz sur Jean-Luc Rotureau. Combien de fois par semaine est-ce que vous prenez le tramway ?
Je ne le prends pas.
Votre quartier préféré à Angers ? Pour vous balader ?
Je me promène dans les 10 quartiers de la ville et à pied.
Votre bar favori ?
L'Abbaye.
La dernière sortie culturelle que vous ayez faite ?
Marielle Dechaume, une chanteuse de ma liste.
C'était quand ?
Oh, il y a un mois.
Votre groupe angevin préféré ? Je vous repose la question.
Ben, c'est plus ancien, mais j'aimais bien l'autre Joe.
Question bonus, si vous êtes qualifié pour le second tour et que vous arrivez en troisième position, est-ce que vous vous retirez ?
Ça dépend de l'écart.
C'est-à-dire ?
Ben, on va discuter avec la liste qui sera seconde, en fonction des pourcentages des uns et des autres, est-ce qu'on peut faire ensemble ou pas, sur le projet municipal.
Vous seriez prêt à discuter avec qui ?
Ah bah, clairement, moi je sais, j'ai une liste de centre-gauche, donc clairement, ce serait une discussion à gauche.
Question bonus plus, qu'avez-vous à répondre aux internautes qui réagissent à vos propos d'hier dans Ouest France, dans lequel vous expliquez, pour ceux qui n'ont pas lu l'interview, que vous ne voulez pas forcément mettre une femme en première adjointe et qui vous taxe de misogynie sur les réseaux sociaux ?
C'est purement scandaleux, c'est vraiment une utilisation. Je me suis ému face aux journalistes de la manière dont les premières adjointes avaient été traitées ces dernières années. Et donc, moi qui avais, quand j'étais en entreprise, institué un plan d'égalité professionnelle pour permettre aux femmes de prendre toute leur place, je suis purement scandalisé de ces propos. Nous avons sur la liste, c'est la seule liste où les femmes sont à l'urbanisme, à la mobilité, urbanisme, mobilité, économie, jamais tant de femmes dans une équipe municipale ont eu tant de responsabilités. Et donc là, il y a eu une instrumentalisation de propos, ça a été détourné, et je dis c'est purement scandaleux, et d'ailleurs les femmes de mon équipe, je crois, vont réagir.
Merci Jean-Luc Rotureau d'avoir été notre invité pour cette première semaine consacrée aux élections municipales, et bon courage pour cette campagne.
Merci.
Jean-Luc Rotureau clôturait donc cette première semaine consacrée aux élections municipales dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Nous reprendrons ce marathon après les vacances, c'est-à-dire le 10 mars, avec comme invité Gaëtan Diran, candidat du Front National. Vous pouvez d'ores et déjà lui poser vos questions sur notre fil @campusangers. Tout de suite sur Radio Campus, on écoute John Milk avec Tears.
Was the best thing you ever had. Don't you break the best thing you ever had once, twice, three times, like a little pump it. Nah, I don't think so. No, I'm free. So I gotta tell you something. Listen. Now you're sorry. One more time for all the ugly things you've done to my little heart. Break it once, just could not wait to break it twice. No, don't you have just for once a little mercy? Oh, can't you have just for once a little mercy, God? Oh. Just a cold as ice. I don't really wanna be worried all day. I don't really wanna salute all your problems. I don't really care if your life is gone. Out of my life, you will walk the line alone. Since you made these tears come out, shake it on, shake it. Some like these, much harder than any love you gave. You've been cheating, you've been lying, while I just gave you my understanding. Oh, don't you have just for once a little mercy? Can't you have just for once a little mercy, Kai? Yours could have been just a cold as ice. Better say, since you.
Mathilde, notre dynamite culturelle, n'est pas là ce soir, elle est un peu malade. Qu'à cela ne tienne, je m'y colle à l'agenda culturel pour votre semaine prochaine. Mais avant, laissez-moi vous dire deux mots du tremplin Temporif qui s'est joué mercredi et hier soir, salle Claude Chabrol à Angers, une salle où il est impossible de se rendre sans véhicule motorisé lorsqu'on habite dans le centre, une salle qui sent bon sa salle municipale où il ne manque qu'un PowerPoint de qualité et du taboulé pour se croire à un mariage. Une soirée dans laquelle le bar avait rayé la ligne panachée et où seuls les panini qui restaient à 21h30 étaient les panini au miel, aux joies, au rock'n'roll attitude. Mais comme il était question de musique, je vous livre les sélectionnés, enfin plutôt les non sélectionnés, parce que Temporif c'est un peu l'école des fans. 10 groupes sur 12 joueront cet été en première partie des concerts sur la Maine. Les deux malheureux sont donc Marcus et Motus, des groupes en us finalement. Reste Bastien Maux, Burn School, Remington, The Paddocks, Cherry Plume, The High Societies, Eagle Gift, Caïman Philippines, Power Cush Experience et San Carol. Alors, l'événement culturel des vacances d'hiver est pour la 7e année consécutive à Angers, c'est le festival Cirque au Quai. Point de lama ou de lion en cage, non. Du bon cirque nouveau et frais comme on l'aime. Certains se souviendront peut-être de la claque livrée par Not on the Circus l'année dernière. On espère qu'on se prendra quelques autres du même acabit cette année. On compte notamment sur Secret de Joanne Le Guillaume qui travaille sur la matière et dont le spectacle tourne depuis 2003. On compte aussi sur la trapéziste Chloé Molia et sa nouvelle création, Alia La Ligne. Elle sera d'ailleurs en interview mercredi prochain dans l'Artichaut. Et puis parce qu'on ne fait pas de cirque sans clown, ce sera Arletty qui s'y collera cette année avec le spectacle Le Sixième Jour. Vous retrouverez bien sûr toute la prog du festival sur le site du Quai. Le Shabada ne ferme pas ses portes pendant les vacances, non, jeudi 6 mars, soirée on stage consacrée, on vous le rappelle, aux groupes locaux. Et pour ce numéro 42, voilà The Paddocks, Born in Roses et Caval, rock, rock, rock. Le lendemain, vendredi 7 mars, The Dead Hippies seront au Shabada avec Power Cush Experience et Red Pants en première partie. Dead Hippies, c'est le projet d'Arnaud Fournier, guitariste et compositeur de Hint et de La Phase. Les vacances, c'est aussi l'occasion de se faire une toile, comme on disait dans les années 90. Mardi, les 400 coups propose l'avant-première du film Se battre et jeudi 6 mars à 20h15, Tout va bien, premier commandement du clown dans le cadre du festival Cirque justement. Sinon et dans le désordre, demain soir à l'espace culturel de l'université, Ultrason propose une soirée chanson française avec Bastien Maux, Gris Cornac et Royal Copec. Il faudra simplement débourser 3€ et se pointer à l'heure, c'est-à-dire à 20h30. Mais demain il y a aussi un concert au T-Rock, ce sera Madeleine Tasquin à 21h30. Madeleine Tasquin, c'est une Canadienne californienne qui a grandi au nord de la Colombie-Britannique avec une mère chanteuse lyrique et un père chercheur d'or originaire d'Autriche. Tranquille. Avec tout ça, elle livre du jazz folk à l'aide d'un piano et d'un ukulélé. Ça, c'était pour vous occuper pendant les vacances. Maintenant, vous aimeriez savoir ce que vous faites ce soir. Pas de problème, j'arrive. Au 400 coups, à 20h15, vous pourrez voir le film L'éclat du jour, suivi d'une interview filmée avec la réalisatrice Magie de la technologie. Cette année, c'est les 20 ans du Shabada et la première soirée anniversaire, c'est ce soir avec Acid Arab, French Doctors, Compact Disc Dummies et L'Electric et Bonnie Bones. À 22h, soirée concert aussi au Joker's Pub avec Ruthless et June et à la même heure au Jacaré, Jalangers Sound à 22h30 à l'Okapi DJ Counts et à 23h Influence Seasons Mix 1 au Soleil Café. Il est l'heure pour nous de lâcher l'immersion et de vous souhaiter de bonnes vacances d'hiver puisqu'on vous laisse tranquille pendant une semaine. Le sous-marin reviendra le 10 mars aux manettes ce soir. C'était David et Thomas. Derrière les micros, Thomas également, l'autre, et Pierre-Antoine. Tout de suite à 20h, vous pouvez retrouver Sine Qua Non, notre bande de cinéphiles sur Radio Campus Angers. Et pour ce qui est du sous-marin, vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site internet le www.radiocampusangers.com. Avant de vous quitter totalement, on vous laisse écouter la bulle sonore. En ce vendredi, c'est évidemment le zapping réalisé par Valentin avec les meilleurs moments de la semaine sur Radio Campus Angers. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. Vous allez nous manquer et on sait que nous aussi, on va vous manquer. Alors on se retrouve lundi 10 mars à 19h. Très bonne soirée sur campus, très bon week-end et très bonnes vacances. Allez, bisous. Et donc, je comprends que ça continue à planter en régie.
Ce qu'on va faire, on va faire de la bonne vieille radio à l'ancienne. Si vous écoutez, c'est un grand moment. D'ailleurs, vous pourrez la entendre dans le zapping en fin de semaine. Vous pouvez entendre les précédents juste avant sur le site. Ce qu'on va faire, c'est de la bonne vieille radio à l'ancienne et un flash info sans habillage sonore.
Finalement, voilà, un flash info brut.
Ouvrir le micro de Pierre-Antoine qui fait le flash info avec toi et je vais vous laisser nous parler de l'actualité.
Effectivement, là, vous écoutez Radio Campus Angers. Il est 19h, si je ne me trompe pas. Bonsoir à tous. Voici les infos.
21h, 22h sur Radio Campus Angers. L'heure de retrouver Marc et Serge pour l'émission Postum. Enfin, ils vous ont manqué pendant ces 3 semaines. Ils sont de retour et...
Je sais qu'on a plusieurs visites médicales. C'est quelque chose que nous, en tant que jeunes... On peut déjà vérifier. Enfin, je sais que lorsque j'étais au collège, on nous incitait à vérifier si effectivement on n'avait pas de grosseur sur les testicules pour les garçons, entre autres.
Alors, dans ce livre, il est écrit que lors de cette journée du 20 janvier 2012, vous auriez dit à Sophie Briand-Boucher, qui est désormais sur la liste de Jean-Luc Rotureau, « Tu voteras pour moi, sinon je te retirerai ta délégation d'adjointe ». Est-ce que vous avez prononcé cette phrase, Frédéric Béat?
Non.
Non?
Non, non.
Donc, Alain Machère s'est trompé?
Oui, enfin, c'est peut-être ceux qui lui ont transmis ces informations-là, qui ont voulu réécrire l'histoire, comme je le disais. Donc c'est une phrase que je n'ai absolument pas prononcée.
Quelle meilleure façon de se régénérer que de partager une bonne salade de fruits entre amis, en famille, avec des inconnus, dans un gangbang, je sais pas, n'importe quand quoi.
Ouais, ou au cours d'un viol ou d'un autre abus sexuel.
Par exemple. Ouais. Dans ce cas-là, on peut en même temps partager des maladies.
Je vous propose de marquer une pause musicale, Frédéric Béat, avec un artiste angevin. Je ne vous dis pas de qui il s'agit, je vous laisse deviner. Est-ce que vous avez trouvé de qui il s'agissait, Frédéric Béat?
Absolument pas, mais c'est très sympa.
C'est très sympa, ça s'appelle Bud McMuffin, et c'était Don't Mess With Us.
Alors, les premiers jeux ne comportaient qu'une seule épreuve. Laquelle était-ce, à votre avis?
La lutte ou l'athlétisme?
Le lancer de javelot?
Pas du tout. C'était en fait la course à pied. Bon, j'ai envie de vous dire, ça n'allait pas casser 3 pintes à un canard, hein, parce que la course se tenait sur une distance très courte, qui était inférieure à 1 km, dans le stade justement soi-disant créé par Hercule, mais qui faisait quand même 600 fois la taille de son pied. Rendez-vous compte.
Christophe Béchu, je vous propose de marquer une pause musicale avec un artiste angevin. Je vous laisse écouter et nous dire ensuite si vous avez trouvé de qui il s'agissait. Est-ce que vous avez reconnu, Christophe Béchu, de qui il s'agissait?
Once Upon a Time.
C'est le titre, effectivement. San Carol.
San Carol.
Du label Echo Twister.
Très bien.
Vous connaissiez?
Sincèrement, je ne crois pas.
Et là, il se retrouve tranquillement dans les vestiaires, en train de se changer et tout. Il regarde son portable. Et là, il se retourne. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus son sac. Son sac de sport a disparu. Il ne sait plus où il a mis. Il ne sait plus où il est. Il est dans la merde, quoi. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? De laisser le joueur chercher pour lui. Et le joueur, il est futé parce qu'en fait, il va là où il peut aller. Et croyez-moi, c'est assez bizarre. Il perd son sac dans des vestiaires. Il sort de la salle. Il voit une porte ouverte d'un jardin. Il rentre. Il rentre dans une vieille remise pour finalement descendre dans une échelle.
C'est chiant, en fait, comme jeu, là.
Non, mais c'est l'intro, tu vois.
D'accord, mais une intro chiante, quoi.
En fait, c'est tout. C'est une intro absurde, en plus, parce qu'en fait...
Non, mais là, il n'y a rien d'intéressant pour l'instant, là. À part qu'il a perdu son sac, il a...
Sac
après,
ouais, mais après, t'as la musique et tout, ça fait un peu peur. Tu sais qu'il va y avoir des trucs pas cool qui vont se passer, quoi.
Est-ce que, comme il est raconté dans le livre d'Alain Machère, La machine à perdre, vous voulez toujours être chef de l'État à 50 ans?
Non, mais alors, il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait exactes dans le livre d'Alain Machère, l'essentiel. En revanche, je ne sais pas d'où vient cette citation, ça ne fait pas partie aujourd'hui de mes ambitions.
Yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.